Chapitre 14. Les dramatiques personnets qui ont déjà figuré dans cette histoire parcourent à l'heure présente la vieille forêt de Sherwood. Robin et Christabel gagnent l'endroit où Sir Alan Clare doit les attendre et, par conséquent, marchent en sens contraire du sergent Lambic qui a reçu l'ordre d'incendier la demeure du père adoptif de Robin. Suivi de 20 bonnes lances, le baron, rajeuni par une colère persistante, vient de s'élancer à la recherche de sa fille. Nous le laisserons galoper bride abattue dans les verdoyants sentiers de la forêt et nous nous réunirons à Sir Alan Clare qui, soutenu par Petit Jean, par Frère Tuck, par Will Écarlate et par les 6 autres filles du noble Sir Guy de Gamwell, se rend à toute hâte à la vallée de Robin Hood, tandis que Maud et Albert s'acheminent vers le cottage du vieux forestier. Maud n'est plus alerte, infatigable, courageuse et gaie. Maud repasse tristement dans sa mémoire les indications que lui a données Robin pour se reconnaître parmi les 1000 sentiers qui se croisent et s'entrecroisent. Maud, enfin, quoique sous la sauvegarde d'un intrépide garçon, ressemble à une pauvre abandonnée et soupire après la fin de cette longue course. « Sommes-nous encore éloignés de la maison de Gilbert ? » demande-t-elle. « Non, Maud, répondit joyeusement Hal. « Encore 6000, je crois. »«
6000 ? » ?»«
Courage, Maud, courage, » dit Albert. « Nous travaillons pour Lady Christabel. » « Mais regarde donc là-bas, ne vois-tu pas un cavalier ?»« Oui, un cavalier suivi d'un moine et de quelques forestiers. »« C'est Messire Alan, c'est le frère Tuck. »« Salut, messieurs, jamais rencontre n'a eu lieu plus à propos. » Et Lady Christabel et Robin, où sont-ils ? Demanda vivement Sir Alan en reconnaissant Maud.
Ils doivent aller vous attendre dans la vallée, répondit Maud.
Dieu nous protège, s'écria Alan quand il eut minutieusement fait raconter à Maud toutes les péripéties de leur fuite du château. Brave Robin, je lui dois tout, ma bien-aimée et ma sœur. « Nous allons prévenir son père des motifs de l'absence de Robin, » dit Hal.
« Et ne pourriez-vous pas aller seul maintenant, frère Hal ?» dit Maud qui brûlait du désir de se rapprocher de Robin. « Ma maîtresse doit avoir grand besoin de mes services. »
Alan ne vit aucun inconvénient à accepter l'offre de Maud et se remit en marche. Frère Tuck, silencieux et isolé d'abord, ne tarda pas à se rapprocher de la jeune fille. Et il tenta de faire l'aimable, il sourit, parla moins brusquement que d'habitude, il eut presque de l'esprit. Mais les avances du pauvre moine ne furent accueillies qu'avec une réserve extrême. Ce changement dans les manières de Maud, en affligeant Tuck, lui enleva toute sa verve. Il se retira donc à l'écart et marcha en regardant pensivement la jeune fille, toujours aussi pensive que lui. Cependant, à quelques pas en arrière de Tuck, s'avançait un personnage qui paraissait vivement désirer un regard de Maud. Ce personnage réparait les désordres de sa toilette, brossait de l'avant-bras les manches et les basques de sa jaquette, redressait la plume de héron qui ornait sa toque, lissait son épaisse chevelure, bref, se livrait en pleine forêt à ce petit travail de coquetterie que tout amoureux débutant exécute par instinct. Ce personnage n'était autre que notre ami Will l'Écarlate. Maud réalisait pour lui l'idéal de la beauté. Il la voyait pour la première fois et c'était elle que, dans ses rêves, il avait choisi pour régner sur son cœur. Un front blanc légèrement bombé et souligné par les sourcils délicats et bruns, des yeux noirs dont l'éclat était tempéré par les crans si longs et soyeux, des joues rosées et veloutées, un nez comme en modelaient les statuaires de l'Antiquité, une bouche entr'ouverte pour laisser parler ou respirer l'amour, des lèvres aux commissures desquelles nichaient de fins et doux sourires, un menton dont la fossette promettait le plaisir comme le hil de la graine promet la fleur, un cou et des épaules réunis par une vraie ligne serpentine, une taille svelte, des mouvements souples et des pieds mignons pour lesquels les sentiers de la forêt auraient dû se couvrir de fleurs. Telle était Maud, la jolie fille d'Hubert Lindsay. William n'était pas assez timide pour se contenter d'admirer en silence. Le désir, le besoin de sentir les yeux de la jeune fille se lever sur lui, l'amenèrent rapidement près d'elle. « Vous connaissez Robin Hood, mademoiselle ?» demanda Will.
Oui, monsieur, répondit gracieusement Maud.
Sans le savoir, Will touchait la corde sensible et gagnait l'attention de Maud.
Et vous plaît-il beaucoup ?
Maud ne répondit pas, mais ses joues devinrent pourpres.
Il fallait que Will fût un vrai débutant pour interroger ainsi à brûle-pourpoint le cœur d'une femme. Il agissait comme l'aveugle qui marcherait sans trembler le long d'un précipice. Que de gens ainsi dont la bravoure n'est qu'un effet de leur ignorance.
« J'aime tant Robin Hood, reprit-il, que je vous garderai rancune, mademoiselle, s'il ne vous plaisait pas. »
« Rassurez-vous, messire, je déclare que c'est un charmant garçon. Vous le connaissez depuis longtemps, sans doute ?»«
Nous sommes amis d'enfance et je préférerais perdre ma main droite plutôt que son amitié. Voilà pour le cœur. Quant à l'estime, j'estime que dans tout le comté, il n'y a pas d'archer qui le vaille. Son caractère est aussi droit que ses flèches, il est brave, il est doux et sa modestie égale sa douceur et sa bravoure. » Avec lui, je ne craindrai pas l'univers entier.
Quelle ardeur dans l'expression de vos pensées, messire! Vos louanges s'en ressentent.
Aussi vrai que je me nomme William de Gamwell et que je suis un honnête garçon, je dis la vérité, mademoiselle, rien que la vérité.
Maud, demanda Alan, craignez-vous que le baron se soit déjà aperçu de la fuite de Lady Christabel?
« Oui, messire le chevalier, car sa seigneurie devait partir ce matin même pour Londres avec Milady. »«
Silence, silence !» vint dire Petit-Jean qui marchait en éclaireur. « Cachez-vous dans l'endroit le plus épais de ce fourré. J'entends le bruit d'une cavalcade. Si les nouveaux venus nous découvrent, nous sauterons sur eux à l'improvise et notre cri de ralliement sera le nom de Robin Hood. « Vite, cachez-vous !» ajouta Petit-Jean en se jetant lui-même derrière un tronc d'arbre. Aussitôt apparut un cavalier emporté par un cheval qui franchissait tous les obstacles, fossés, arbres renversés, buissons et haies, avec une vitesse fantastique. Ce cavalier, que suivaient à grand-peine quatre hommes également à cheval, était accroupi plutôt qu'assis sur la fougueuse bête. Il avait perdu son chapeau et ses longs cheveux épars, secoués par le vent, donnaient à sa figure, où respirait l'effroi, un aspect étrange et diabolique. Il rasa de près le fourré où s'était blottie la petite troupe et Petit-Jean aperçut une flèche plantée dans le jalon d'un arpenteur sur la croupe du cheval. Le cavalier disparut bientôt dans les profondeurs de la forêt, toujours suivi de ses quatre hommes. « Que le ciel nous protège !» s'écria Maud. « C'est le baron !»«
C'est le baron !» répétèrent Alan et Albert.
« Et si je ne me trompe, ajouta Will, la flèche qui sert de gouvernail à sa bête sort du carquois de Robin. Qu'en dites-vous, cousin Petit-Jean ?»«
Je suis de vos avis, Will, et j'en tire la conséquence que Robin et la jeune dame sont en danger. Robin est trop prudent pour prodiguer des flèches sans y être contraint. Hâtons le pas. »
Un mot pour expliquer la désagréable situation du noble Fitz Alwin, très bon cavalier du reste, ne sera pas inutile. Le baron, en s'engageant dans la forêt, avait donné l'ordre à son meilleur coureur d'inventorier la grande route de Nottingham à Mansellwood House et de revenir lui faire son rapport à tel carrefour désigné. On sait ce qu'il advint du coureur. Robin le démonta. Le hasard voulut que Robin et Lady Christabel entrassent par un côté dans le même carrefour désigné pour le rendez-vous, tandis que le baron y entrait par un autre. Les deux fugitifs eurent la chance de se jeter dans un taillis sans être vus, et le baron, avec ses quatre écuyers, se porta au milieu du carrefour, sur une éminence, en attendant le retour de son éclaireur.
« Fouillez un peu les alentours, commanda le baron. Deux ici et deux là. »
« Nous sommes perdus, pensa Robin. Que faire? Comment fuir? Si nous prenons en dehors du bois, les chevaux nous rattraperont en deux temps. Si nous essayons une trouée à l'intérieur, le bruit attirera l'attention des limiers. Que faire ? » Tout en réfléchissant ainsi, Robert bandait son arc et choisissait dans son carquois la flèche au fer le plus pointu. Christabel, quoique anéantie par la frayeur, s'aperçut de ses préparatifs et, la piété filiale l'emportant sur son désir de rejoindre Alan, elle supplia le jeune homme d'épargner son père. Robin sourit et fit de la tête un signe affirmatif. Le signe voulait dire « je l'épargnerai ». le sourire. Souvenez-vous du cavalier démonté. Les soldats battaient avec soin la lisière du carrefour, mais la prime de 100 écus d'or qui stimulait leurs ailes n'avait pas la vertu de leur donner du nez. Néanmoins, la position de Robin et de Christabel devenait de plus en plus critique, car ces chiens quêteurs, partis deux par deux d'un point opposé pour faire le tour de la clairière, ne pouvaient se réunir sans les rencontrer. Pendant ce temps-là, le vieux Fitz Halloween, posté comme une vedette sur les hauteurs qui dominent un camp ennemi, se livrait à une répétition générale du terrible sermon qu'il comptait adresser à sa fille dès qu'elle serait rentrée dans le domicile paternel. Il combinait aussi les raffinements divers des châtiments à infliger à Robin, à Maud et à Hal, et calculait à quelques pouces près la hauteur de la potence d'Alan. Il rêvait, l'excellent seigneur, aux convulsions de celui qui avait osé enlever Christabel. Il laissait pourrir son cadavre au gibet pendant le mois de la lune de miel et souriait déjà à l'idée d'être grand-papa l'an prochain par le fait de Sir Tristan de Goldsborough. Mais tout à coup, au milieu de ses rêves enchanteurs, le cheval du baron se cabre, se déhanche, tord le rable, pousse des ruades et secoue frénétiquement le vieux guerrier qui tient bon et cherche à le maîtriser sur place comme il maîtrisait jadis les indomptables coursiers arabes. Vaine tentative, l'homme et la bête ne s'entendent pas. Fitz Halloween demeure en selle, aussi ferme que sur la croupe du cheval demeure la flèche qui vient de s'y implanter, et le cheval et les illusions du baron prennent le mort aux dents et commencent de par la forêt cette course désordonnée, folle, fantastique, qui les conduit près d'Alan Clare et les entraîne on ne sait où. Les quatre écuyers s'élancèrent au secours de leur maître et la bille archer, saisissant la main de sa compagne, traversa le carrefour. Que devint le baron ? Vraiment, nous n'oserions raconter l'événement qui mit fin à cette course au clocher, tant il est extraordinaire et merveilleux. Mais les chroniques de l'époque en garantissent l'authenticité. Voilà. Les écuyers perdirent bientôt le baron de vue, et peut-être eût-il été emporté à travers l'Angleterre jusqu'au nord de l'océan, si la bête, en passant sous un chêne au pied duquel gisait le fragment d'un tronc d'arbre, n'eût trébuché. Notre baron, qui n'avait pas perdu l'esprit, voulut éviter une chute dont la violence pouvait être mortelle, et, laissant la bride, se saisit à deux mains d'une des branches du chêne, fort heureusement à sa portée. Il espérait pouvoir en même temps retenir son cheval en l'enserrant entre ses genoux. Mais la courbette forcée de la bête fut si profonde que Fitz Halloween dut abandonner la selle et demeura suspendu par les mains à la branche du chêne, tandis que le cheval se redressait, allégé, et entreprenait une nouvelle campagne. Peu habitué à la gymnastique, le baron mesurait prudemment la distance qui le séparait du sol avant de se laisser choir, lorsque tout à coup il vit flamboyer dans la demi-obscurité du matin et droit sur ses pieds quelque chose d'incandescent comme deux morceaux de charbon ardent. Ces deux points ignés appartenaient à une masse noire qui s'agitait, tournoyait et se rapprochait par instant et par bond des jambes du malheureux lord. « Holà, c'est le loup !» pensa le baron, qui ne put retenir un cri d'effroi et s'efforça de monter à califourchon sur la branche. Mais il ne put y parvenir et une sueur glacée, la sueur de l'épouvante, l'inonda quand il sentit glisser sur le cuir de sa botte et craquer sur le métal de ses éperons les dents du loup qui bondissait, allongeant le col, tirait la langue et aspirait sa proie à mesure que lui se roidissait les bras, s'accrochait du menton à la branche et repliait les jambes jusqu'à sa poitrine. La lutte n'était pas égale. Le fil qui retenait en l'air cette friandise de bête féroce allait se casser. Le vieux lord n'avait plus de force. Aussi, donnant un dernier souvenir à Christabel et recommandant son âme à Dieu, dut-il fermer les yeux et ouvrir les mains, et il tomba. Mais, ô miracle de la Providence, il tomba comme un pavé sur la tête du loup qui ne s'attendait pas à un si lourd morceau, et en tombant, et le poids du corps, qui se présentait par l'endroit où il a le plus d'ampleur, luxa les vertèbres cervicales du loup et lui rompit la moelle épinière. De sorte que, si les quatre écuyers étaient arrivés sur le lieu du sinistre, ils eussent trouvé leur maître évanoui, couché côte à côte avec un loup trépassé. mais d'autres personnages que les écuyers devaient réveiller le noble seigneur de Nottingham. Au pied de ce vieux chêne, dont les branches s'inclinaient vers le ruisseau qui traverse la vallée de Robin Hood, était assise Lady Christabel. Debout, à quelques pas, Robin s'accoudait sur son arc et tous deux attendaient, non sans impatience, l'arrivée de Sir Alan Clare et de ses compagnons. Après avoir épuisé les sujets de causerie sur leur situation présente, ils parlèrent de Marianne et les tendres éloges que prodigua Christabel au doux et charmant caractère de la sœur d'Alan furent écoutés par Robin avec l'ardente attention de l'amour. Le jeune homme aurait bien voulu adresser une question à Christabel, lui demander si, comme Alan Clare, Marianne n'avait pas déjà donné son cœur à quelque beau cavalier de la noblesse, mais il n'osait. « Si cela est, pensait-il, je suis perdu. Quelle chance aurais-je en luttant contre un tel rival, moi, pauvre enfant de la forêt ?»« Milady, dit-il soudain en rougissant, et d'une voix émue, tremblante, je plains sincèrement Miss Marianne si elle a quitté quelque tendre ami pour accompagner son frère dans un voyage rempli, sinon de dangers réels, du moins de difficultés et de fatigues. Marianne, répondit Christabel, a le malheur, ou peut-être le bonheur, de n'avoir d'autre tendre ami que son frère. J'ai peine à le croire, Milady. Une personne aussi belle, aussi séduisante que Miss Marianne, doit posséder ce que vous possédez, quelqu'un qui lui soit dévoué, comme à vous, messire Alan. Quelque étrange que cela puisse vous paraître, messire, dit la jeune fille en rougissant, j'affirme que Marianne ne sait pas s'il existe un amour autre que l'amour fraternel. Cette réponse, faite d'un ton assez froid, obligea Robin à changer de conversation. Le soleil dorait déjà la cime des grands arbres et Alan ne paraissait pas. Robin dissimulait son inquiétude pour ne pas alarmer la jeune fille, mais il se livrait à de sombres hypothèses sur les causes de ce retard. Tout à coup, une voix sonore retentit dans le lointain. Robin et Christabel tressaillirent. « Est-ce un appel de nos amis ?» demanda la jeune fille. « Hélas non. Will, mon ami d'enfance, et Petit-Jean, son cousin, qui accompagne Messire Alan, connaissent parfaitement l'endroit où nous les attendons, et ce que nous avons entrepris exige tant de prudence pour réussir qu'ils ne s'amuseraient pas à jouer avec les échos de la forêt. » La voix se rapprocha et un cavalier aux couleurs de Fitz Halloween traversa rapidement la vallée. « Éloignons-nous, Milady. Nous sommes ici, trop près du château. Je plante cette flèche à terre au pied de ce chêne, et si mes amis arrivent pendant notre absence, ils comprendront en la voyant que nous nous sommes cachés dans les environs. » « Faites, messire, je m'abandonne entièrement à votre bonne garde. » Les deux jeunes gens venaient de franchir quelques alliés et cherchaient une place convenable pour s'y reposer quand ils aperçurent le corps d'un homme étendu immobile et comme mort près d'un tronc d'arbre. « Miséricorde !» s'écria Christabel. « Mon père, mon pauvre père mort !» Robin frissonna en se croyant coupable de la mort du baron. La blessure du cheval n'en était-elle pas la cause première ?« Sainte Vierge, murmura Robin, accordez-nous la grâce qu'il ne soit qu'évanoui. » Et en disant ces mots, le jeune archer se précipita à genoux près du vieillard, tandis que Christabel, toute à sa douleur et au repentir, poussait des gémissements. Une légère blessure au front du baron laissait filtrer quelques gouttes de sang. « Tiens, est-ce qu'il se serait battu avec un loup ?»« Ah, il a étranglé le loup !» s'écria joyeusement Robin, « et il n'est qu'évanoui !»« Milady, Milady, croyez-moi, monsieur le baron n'a qu'une égratignure !»« Milady, relevez-vous !» « Malheur, malheur !» reprit Robin. « Elle aussi est évanouie. Ah, mon Dieu, que devenir ? Je ne puis la laisser là, et le vieux lion qui se réveille, qui agite les bras, qui grogne déjà ? Ah, c'est à en devenir fou ! Milady, répondez-moi donc !»« Non, elle est aussi insensible que ce tronc d'arbre. Ah, que neige dans les bras et dans les reins, la force que je me sens dans le cœur ! Je l'emporterai d'ici comme une nourrice emporte son enfant. » Et Robin essaya d'emporter Christabel. Cependant, en revenant à lui, la pensée du baron ne fut pas pour sa fille, mais pour le loup, ce seul et dernier être vivant qu'il eût aperçu avant de fermer les yeux. Il allongea donc le bras pour saisir l'animal, qu'il se figurait occupé à lui dévorer une jambe ou une cuisse, quoiqu'il ne ressentît aucune douleur des morsures, et il se cramponna à la robe de sa fille en jurant de défendre sa vie jusqu'au dernier soupir. « Vil monstre !» disait le baron, au loup étendu à quelques pas de lui. « Monstre affamé de ma chair, altéré de mon sang, il y a encore de la vigueur dans mes vieux membres, tu vas voir. Ah, il tire la langue, je l'étrangle. Ici, tous les loups de Sherwood, ici, venez. Ah ah, un autre encore. Mais je suis perdu. Mon Dieu, prenez pitié de moi. Paternostes, quidevin. » Mais il est fou, complètement fou, se disait Robin, anxieusement placé entre un devoir à remplir et sa sûreté personnelle à garantir. S'il fuyait, il abandonnait celle qu'il avait juré de conduire près d'Alan. S'il restait, les hurlements du fou pouvaient attirer les hommes qui battaient le bois. Fort heureusement, l'accès du baron se calma et, les yeux toujours fermés, il comprit que nulle dent de bête féroce ne déchiquetait ses membres et il voulut se relever. Mais Robin, agenouillé derrière sa tête, pesa fortement sur ses épaules et remplit pour ainsi dire le rôle d'une lassitude extrême en le maintenant solidement étendu par terre. « Par Saint-Benoît, murmurait le lord, je sens sur mes épaules un poids de 100 000 livres. Oh, mon Dieu et mon Saint-Patron, je jure de faire bâtir une chapelle à l'orient du rempart si vous me conservez la vie et me donnez la force de rentrer au château. Liberanos quesumus domine. » En achevant cette prière, il tenta un nouvel effort. Mais Robin, qui espérait voir Christabel reprendre ses sens, pesait toujours ferme. Domine, exaudi orationem meam, continua Fitzalwin en se frappant la poitrine. Puis il se mit à pousser des cris perçants. Mais ces cris ne convenaient pas à Robin, ils étaient trop dangereux pour la sûreté des fugitifs, et le jeune homme, ne sachant comment les interrompre, dit brutalement « Taisez-vous !» Au son de cette voix humaine, le baron ouvrit les yeux et quelle ne fut pas sa surprise en reconnaissant, penché sur sa figure, la figure de Robin Hood et à côté de lui, étendue sur le sol, sa fille évanouie. Cette apparition balaya la folie, la fièvre et l'anéantissement de l'irascible lord et comme s'il eût été maître de la situation dans son château et entouré de ses soldats, il s'écria presque triomphant « Enfin, je te tiens donc, jeune bulldog !»« Taisez-vous !» répliqua énergiquement et impérieusement Robin. « Taisez-vous ! Plus de menaces, plus de criailleries, elles sont hors de propos et c'est moi qui vous tiens !» Et Robin continua à peser de toutes ses forces sur les épaules du baron. En vérité, dit Fitzalwin, qui n'eut pas de peine à se dégager des étreintes de l'adolescent et se redressa de toute sa hauteur, « En vérité, tu montres les dents, jeune chien !» Christabel était toujours évanouie et en ce moment, elle ressemblait à un cadavre tombé entre ces deux hommes car Robin s'était rejeté promptement de quelques pas en arrière et posait une flèche sur son arc. « Un pas de plus, milord, et vous êtes mort !» dit le jeune homme en visant le baron à la tête. Ah ah ! S'écria Fitzalwin, devenu livide et reculant lentement pour se placer derrière un arbre. Seriez-vous assez lâche pour assassiner un homme sans défense ? Robin sourit. « Milord, dit-il en visant toujours à la tête, continuez votre mouvement de retraite. Bien, vous voilà abrité par cet arbre. Maintenant, attention à ce que je vais vous commander, non, vous priez de faire. Attention, ne montrez ni votre nez, ni même un seul cheveu de votre tête en dehors de cet arbre, soit à gauche, soit à droite, « sinon, la mort !» Sans tenir tout à fait compte de ces menaces, le baron, bien caché par l'arbre, avança en dehors le doigt indicateur et menaça le jeune archer. Mais il s'en repentit cruellement, car ce doigt fut aussitôt emporté par une flèche. « Assassin ! Misérable coquin ! Vampire ! Vassal !» hurla le blessé. « Silence, baron, ou je vise à la tête, entendez-vous ? » Fitzalwin, collé contre l'arbre, vomissait à mi-voix des torrents de malédictions, mais se cachait avec sollicitude, car il s'imaginait Robin au gîte, à quelques pas de là, l'arc tendu et la flèche à l'œil, épiant le moindre de ses gestes hasardés en dehors de la perpendiculaire du tronc d'arbre. Mais Robin remettait son arc en bandoulière, chargea doucement Christabel sur ses épaules et disparaissait à travers les halliers. Au même instant, le bruit d'une cavalcade se fit entendre et quatre cavaliers apparurent en face de l'arbre qui servait d'écran au malheureux baron. « À moi, coquin !» s'écria celui-ci, car ces quatre hommes n'étaient autres que ceux de son escouade, distancés depuis longtemps par le courtot galopant flèche en croupe. « À moi, tombé sur le mécréant qui veut m'assassiner et emporter ma fille !» Les soldats ne comprirent rien à un tel ordre, car ils ne voyaient aux alentours ni bandits ni femmes enlevées. « Là-bas, là-bas, le voyez-vous qui fuit ?» reprit le baron en se réfugiant entre les jambes des chevaux. « Tenez, il tourne au bout du massif !» En effet, Robin n'avait pas encore assez de vigueur pour transporter rapidement au loin un fardeau tel que le corps d'une femme et quelques centaines de pas à peine le séparaient de ses ennemis. Les cavaliers s'élancèrent donc vers lui, mais les cris du baron frappèrent en même temps l'oreille de Robin et il comprit aussitôt que son salut n'était plus dans la fuite. Faisant alors volte-face, il mit un genou en terre, coucha Christabel en travers sur son autre jambe et s'écria, les deux mains à l'arc et visant de nouveau Fitzhalloween, « Arrêtez ! De par le ciel, si vous faites un pas de plus vers moi, votre seigneur est mort !» Robin n'avait pas achevé ses paroles que déjà le baron était caché derrière l'arbre qui lui servait d'écran, mais continuant à crier « Saisissez-le, tuez-le, il m'a blessé !»« Vous hésitez ? Oh, les lâches, les mercenaires !» La fière contenance de l'intrépide archer intimidait les soldats. L'un d'eux, cependant, osa rire de cet effroi. « Il chante bien, le jeune coq, dit-il, mais c'est égal, vous allez voir comme il est doux et soumis. » Et le soldat descendit de cheval et s'avança vers Robin. Robin, outre la flèche placée sur son arc, en tenait une seconde entre ses dents et, d'une voix étouffée mais impérieuse, il dit « Je vous ai déjà prié de ne pas m'approcher, maintenant je vous l'ordonne. Malheur à vous si vous ne me laissez continuer en paix mon chemin. » Le soldat se prit à rire d'un air moqueur et avança encore. « Une fois, deux fois, trois fois, arrêtez-vous !» Le soldat riait toujours et ne s'arrêtait pas. « Meurs donc !» cria Robin. Et l'homme tomba, la poitrine transpercée d'une flèche. Le baron seul portait une cotte de mailles. Ses hommes d'armes s'étaient équipés comme pour une chasse. « Chien, tombez sur lui !» vociférait toujours Fitzhalloween. « Oh, les lâches, les lâches! Une égratignure leur fait peur !»« Sa seigneurie appelle cela une égratignure !» murmura l'un des trois cavaliers, peu soucieux d'exécuter la même manœuvre que son défunt camarade. « Mais, s'écria un autre soldat en s'élevant sur ses étriers pour mieux voir de loin, « voilà du secours qui nous arrive. Parbleu, c'est Lambic, monseigneur !» En effet, Lambic et son escorte arrivaient à fond de train. Le sergent était si joyeux et en même temps si pressé d'apprendre au baron le succès de son expédition qu'il n'aperçut pas Robin et cria d'une voix retentissante « Nous n'avons pas rencontré les fugitifs, monseigneur, mais en revanche, la maison est brûlée. » « Bien, bien !» répondit impatiemment Fitzhalloween. « Mais regarde cet ourson que ces lâches n'osent museler !»« Oh, oh !» reprit Lambic, reconnaissant le démon à la torche et riant avec mépris. « Oh, oh ! Jeune poulain sauvage ! Je vais donc enfin te passer une bride ! Sais-tu, mon bel indomptable, que j'arrive de ton écurie ? Je croyais t'y trouver et franchement, ça m'a contrarié !» Tu aurais pu voir un magnifique feu de joie et danser, en compagnie de bonne maman, une gigue au milieu des flammes. Mais console-toi, comme tu n'étais pas là, j'ai voulu épargner à la pauvre vieille des souffrances inutiles et je lui ai préalablement envoyé une flèche dans... » Lambic n'acheva pas. Un cri rauque s'exhala de ses lèvres et, lâchant la bride du cheval, il tomba. Une flèche venait de lui traverser la gorge. Une indicible terreur cloua sur place les témoins de cette vengeance. Robin en profita, malgré le saisissement que lui causaient les dernières paroles de Lambic, et chargeant Christabel sur son épaule, il disparut dans le hallier. « Courez, courez !» répétait le baron au paroxysme de la rage. « Courez, coquin ! Si vous ne le saisissez pas, vous serez tous pendus, oui, pendus !»
Les soldats se jetèrent à bas de leurs chevaux et s'élancèrent sur les traces du jeune homme. Robin, pliant sous le fait, perdait à chaque minute de son avance sur eux. Plus il faisait d'efforts pour s'éloigner, plus il sentait que ses efforts devenaient inutiles, et pour comble de malheur, la jeune fille, qui commençait à reprendre ses sens, s'agitait convulsivement et poussait des cris aigus. Ses mouvements désordonnés entravaient la vitesse de la course de Robin, et s'il parvenait à se cacher derrière quelque épais buisson, les cris de Christabel ne manqueraient pas d'attirer les limiers. « Allons, pensa-t-il, s'il faut mourir, mourons en nous défendant. » Et de l'œil, Robin chercha un endroit propice pour y déposer Christabel, quitte à revenir seul ensuite, faire tête aux gens du baron. Un orme entouré de buissons et de jeunes pousses d'arbres lui parut convenable pour servir de retraite à la fiancée d'Alan, et sans révéler à Christabel quel danger les menaçait, il la déposa au pied de cet arbre, s'étendit auprès d'elle, la conjura de rester immobile et silencieuse, et attendit, contemplant par la pensée un spectacle horrible, l'incendie du cottage où il avait vécu, puis Gilbert et Marguerite, expirant au milieu des flammes.